Heint ist Purim, Brüder, lass mir singen Lieder.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes jeudi et aujourd'hui, journée spéciale, c'est le jour de Tahanit Esther qui a commencé ce matin aux alentours de 4h et qui finira ce soir après l'horaire et la prière de Arvit. Avec nous pour en parler, le rabbin Aaron Eliashev, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai une question à poser, je me suis levé ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner et je me suis souvenu seulement maintenant, c'était Tahanit Esther. Qu'est-ce que je fais? Je continue à manger, j'arrête de manger, quelle est la solution?
J'arrête.
De manger?
Ouais.
Et j'attends jusqu'à la fin du jeûne?
Ouais.
D'accord. Au moins, ça c'est clair. On va parler donc de ce jeûne d'Esther. Finalement, quand on essaie d'avoir des explications, c'est quoi la vraie explication du jeûne d'Esther? C'est dû à quoi? Au jeûne que Esther a fait, ou est-ce que c'est plus une question, je dirais, de prise de conscience et de prise de conscience qu'on allait nous exécuter? C'est quoi la vraie raison de ce jeûne?
Intuitivement, comme il s'appelle Tahanit Esther, on a vraiment l'impression que c'est le Tahanit qu'on fait en souvenir du Tahanit, fameux Tahanit d'Esther.
En souvenir de ce qu'elle a fait, elle?
Oui, intuitivement, on dit ça, on appelle ça Tahanit Esther, et on fait ça avant la Megillah, bien qu'on sache que le Tahanit Esther a eu lieu, Tahanit Esther a fait faire dans la ville de Shushan a eu lieu un an avant, au mois de Nissan. Mais comme on appelle ça Tahanit Esther, intuitivement, on se dit que c'est Tahanit Esther, c'est lié à Esther.
Allez-y.
Mais dans le Mishnah Berurah, c'est pas écrit exactement comme ça. Dans le Mishnah Berurah, il y a marqué qu'on fait Tahanit Esther parce que le 13 Adar, donc c'est le jour d'habitude où on fait le Tahanit Esther, sauf que là, on le fera un peu avant. C'est le jour où ils ont fait la guerre. Et les jours de guerre, on a l'habitude de jeûner, justement, pour, d'une part, montrer que peut-être les choses ne dépendaient pas complètement de nous. C'est aussi contre-intuitif de jeûner alors qu'on va faire la guerre. Mmh. Et aussi pour supplier à Kosh Baruch Hu, d'être en état de faiblesse, pour supplier à Kosh Baruch Hu de nous aider. Et probablement, même si ce n'est pas complètement lié, parce qu'il y a une question qui se pose évidente, c'est d'où Esther a eu cette idée, je dirais, bizarre. Jeûner, on comprend. Mais on n'a jamais vu qu'on jeûne trois jours non-stop. Mmh. D'ailleurs, je conseille à chacun d'essayer pour faire l'expérience de ce que c'est que le Tahanit Esther. Essayer de comprendre pourquoi elle a demandé trois jours. Je pense que ça ne s'est jamais vu, de jeûner trois jours. Ça n'a jamais été vu en proposition ou c'est pas un process, on mange en général, mais jeûner trois jours d'affilée, ça n'existe pas. Et même d'ailleurs, s'il y a marqué dans l'Halakha qu'il y en a qui jeûnent trois jours en Zecher le Tahanit Esther, c'est pas qu'ils jeûnent trois jours d'affilée.
Ils s'arrêtent, ils mangent.
Voilà, ils jeûnent le lundi, jeudi, lundi. Mais jamais non-stop. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est très dangereux. On dit toujours jeûner, on peut jeûner 40 jours, on peut jeûner un an, une année, mais il faut boire, il faut. Etc. Mais là, jeûner trois jours d'affilée sans rien, c'est vraiment une expérience, je pense, qu'il faut faire pour mesurer ce que voulait obtenir Esther. Et ça reste une question. Qu'est-ce que voulait exactement Esther avec ces trois jours de jeûne?
Alors, il y a aussi une question que je voulais vous poser. Cette année, on avance le jeûne. Pourquoi on avance toujours les jeûnes et on ne les occupe pas? Pourquoi on ne pourrait pas faire le jeûne lundi après au lieu de le faire avant?
C'est déjà, le jeûne, c'est en général une préparation. C'est quelque chose.
On fait Rosh Hashanah et Kippour après.
Rosh Hashanah et Kippour après, c'est-à-dire?
C'est-à-dire Rosh Hashanah d'abord et après on jeûne pour Kippour.
Ah.
Dans ce sens-là.
Oui, on jeûne le jour de Kippour parce que ça accompagne, c'est vraiment lié à Yom Kippour. On jeûne pour des raisons, on ressemble à des malachim ou plein de choses. Les jeûnes, ils ne se ressemblent pas. Par exemple. Le Tahanit Esther ou le jeûne de Kippour, c'est des jeûnes qui sont particuliers. D'habitude, un jeûne, c'est toujours par rapport à un événement tragique qui est arrivé. le jeûne de Kippour et le jeûne de Tanit Esther, tous les commentateurs font remarquer, surtout sur le Tanit Esther, qu'il est beaucoup plus, entre guillemets, léger que les autres, dans le sens où ça ne vient pas sur une souffrance qui a eu lieu dans le peuple juif.
On a quand même l'habitude souvent de comparer Pourim et Kippour, où il y a une sorte de relation, non?
Oui, alors là on est parti dans les hautes sphères.
D'accord, alors on va redescendre sur Terre et on va parler donc évidemment de cette histoire qu'on nous parle de à Pourim, une histoire un peu romanesque, un peu... non, est-ce que cette histoire s'est passée comme c'est écrit vraiment? Ou est-ce qu'on a édulcoré, je dirais, ce qui s'est vraiment passé?
Édulcoré, je sais pas.
Je sais pas, c'est un peu... Quand on raconte l'histoire aux enfants, on parle d'un premier ministre très méchant qui vole tous les juifs, etc.
Bah, moi, je pense que c'est une histoire qu'il faut d'abord surtout pas raconter aux enfants.
Ah
parce
bon
que... Ah ouais.
Pourquoi
c'est difficile d'expliquer à un enfant comment une femme juive peut épouser un non-juif et passer sa vie avec lui et sauver le... Ils ont fait un peu l'apologie du mariage mixte. Donc c'est un peu complexe pour un enfant de lui faire passer ça comme si tout va bien, Madame la Marquise, et on est en train de décrire cette pauvre Esther, une tzadékette, la femme peut-être du Gadol Hador de l'époque, qui pour sauver le pauvre... du Gadol Hador de Mordechai,
voilà,
qui est obligé de vivre avec un goy dont les mœurs sont assez bien décrits, bien qu'assez discrètement quand même, mais assez bien décrits au début de la Megillah. Et donc pour un enfant, je pense que ça peut être extrêmement troublant. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir vraiment lui expliquer.
Pourtant, c'est une fête qui est dédiée aux enfants. On les déguise, on donne des cadeaux, on fait des mets spéciaux. Ça veut dire qu'on doit leur cacher ce qui s'est passé?
Non, ça va être dur de leur cacher, mais disons qu'on ne s'y attarde pas.
D'accord.
On ne s'y attarde pas. Et,
sur des bulles, soir, en tout cas.
Oui, finalement, ça donne des adultes qui ne comprennent rien à la Megillah parce qu'ils pensent qu'ils se réjouissent alors qu'ils devraient se dire « mais on devrait pleurer ». On devrait pleurer que les choses se passent de cette manière-là. On est bien content d'être sauvé, mais pauvre Esther. Et donc...
Pourim, c'est quand même une fête joyeuse, c'est pas...
Ah, mais c'est très joyeux, Pourim. C'est très joyeux parce que... disons, c'est pas joyeux. C'est une joie assez complexe. Parce que c'est une joie de celui qui est du condamné à mort, à qui on dit finalement...
On va t'acquitter.
Voilà. Tu as été acquitté ou tu as été gracié. Mais donc, c'est très particulier, disons, de passer de cet état où je suis condamné à mort, je suis sûr que je vais mourir, à un état de joie. Et d'ailleurs, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
Ah.
Non, parce que...
On va avoir un scoop, alors.
Non, il suffit de lire la Megillah. En vérité, les Juifs, depuis 11 mois... savent que on va les détruire, on peut les détruire. Il y a un ordre du roi qui va dans ce sens-là, de les détruire.
C'était quoi exactement l'ordre du roi? C'était toute personne a le droit de tuer un juif sans être poursuivi, c'est à peu près le...
Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça.
D'accord.
Homme, femme, enfant.
Tuer et on vous dit rien. C'est un peu ça.
Ouais. A priori, homme, femme, enfant, bon, c'est écrit. Et surtout, et l'argent aussi, de pouvoir prendre l'argent. C'est quand même la chose qui compte le plus. Et dans ce genre d'opération guerrière, tout ce qu'on peut récupérer est bienvenu. Et donc ils sont au courant, ils se préparent. Disons, ils sont pas... Il n'y a pas d'effet de surprise. Il n'y a pas d'effet de surprise. On sait que c'est un peu comme ce qu'on vit maintenant... On sait que, on sait et on ne sait pas justement. On dit voilà, potentiellement, on pourrait être détruit parce que si tout le monde se mettait contre nous, alors on serait détruit.
C'est une attente terrible, ça, non?
Voilà, mais d'un autre côté, on a le droit de se défendre. Mais je pense que ce qui était la partie angoissante, c'est combien se battraient effectivement. Mais être préparé et il n'y avait pas vraiment d'effet de surprise. Et en plus, on savait qu'on avait le droit de se défendre. Le problème, c'est combien contre nous.
Alors, le début de l'histoire de cette Megillah commence par un mishté, un énorme repas que donne le roi à toute sa cour et à tout le peuple. Ce qui est très, très intéressant dans ce texte, c'est qu'on dit que même les grands rabbanim, des grands personnages, qui etc., ont accepté de participer à ce musté, alors qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas, notamment puisque tous les ustensiles de Bétamidas étaient utilisés. Comment on peut comprendre que autant de gens sont allés sans se poser de questions, comme Mordechai ? Est-ce que nous, on aurait fait pareil ?
Bon, d'abord, je pense que on ne sait pas est-ce que les gens se posaient des questions ou pas. A priori, on peut être dans le Kavzochout qu'ils se posaient beaucoup de questions.
Mais ils sont allés.
Voilà, ils sont allés parce qu'on ne peut pas ne pas y aller. C'est comme si vous êtes invité par la présidence, etc. Vous êtes convoqué à l'Élysée ou à Matignon, etc. Il y a une partie des gens qui sont fascinés par le pouvoir. Bon, ça, c'est malheureux pour eux. Donc ça les fascine, mais parce que le pouvoir est fascinant. Donc vous imaginez le pouvoir qu'on a maintenant. Il faut s'imaginer celui d'Ahasvéros. Donc ça n'avait déjà aucun rapport. Et donc, il y a probablement des gens qui avaient ce côté-là d'être fascinés par le pouvoir. Mais en général, ce n'était pas ça. C'était qu'on était obligé d'y aller, que, a priori, les choses devaient bien se passer.
A priori, ils n'ont pas été très dérangés par ce qui se passait là-bas. En tout cas, il y a pas des commentaires qui disent que le contraire.
Ben, le problème, c'est que on ne sait pas. Là, on a des midrashim un peu sur ce qui s'est passé. C'est pas extrêmement clair ce qui s'est passé. C'est pas extrêmement clair non plus ce qu'on leur reproche. Et l'événement de la Megillah elle-même, ça veut dire l'histoire d'Aman, se passe 9 ans après ce fameux repas où ils sont censés avoir fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc vous imaginez qu'au moment où 9 ans après arrivent les problématiques d'Aman, personne devait se dire, personne pouvait faire le rapport avec quelque chose qui s'était passé 9 ans avant. Donc à la sortie de ce moment où ils ont peut-être un peu craqué,
ouais.
Voilà, pendant des années, il n'y a eu aucune conséquence minashamaim, disons, aucune conséquence de ça. Et donc, ça devait être presque impossible de faire le rapport.
Alors, on va avancer un peu, on ne va pas raconter l'histoire, parce que tout le monde normalement la connaît, les Juifs sont sauvés. Juste un mot sur quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, sur le fameux code d'Esther. Vous savez, on dit qu'un des accusés de Nuremberg a dit, en l'occurrence Julius Refser, c'est le Pourim, le deuxième Pourim. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi on parle, c'est quoi ce code d'Esther? Alors on va dire simplement qu'il y a eu la pendaison des enfants d'Aman.
Oui, c'est ça, c'est que il y a une chose très, très étonnante, c'est que, en réalité, on a l'habitude de dire que qu'est-ce que c'est, pourquoi on appelle Pourim, Pourim, parce qu'il y a le pour d'Aman qui s'est transformé en notre pour à nous. Ça veut dire que les choses se sont arrangées et ce que Aman voulait faire, c'est retourner contre lui. Et donc, et ça, le 13 Adar. Le problème, c'est que le 13 Adar, Aman est mort depuis 1 an. Donc, le 13 Adar, rien ne s'est retourné contre lui. Si déjà on devait faire la fête, parce que quelque chose s'est retourné contre Aman.
Hein, on aurait dû le faire 1 an avant.
Voilà, on aurait dû le faire 1 an avant, quand Aman veut faire pendre Mordechai, et que c'est lui qui est pendu à cet arbre-là.
Avec ses enfants.
Voilà. Non, et sans ses enfants. Ah. Il est pendu absolument seul. Il est pendu seul 1 an avant. Et pourtant, dans la Megillah, à la fin de la Megillah, il y a marqué que le 13 Adar, on a pendu lui et ses enfants. Donc on demande, mais attends, c'est pas possible. Lui, ça fait 1 an qu'il est mort. Et donc il y a cette question qui a été demandée à Prem Kanievski. Elle a dit, mais comment ça se fait? Comment on peut comprendre que lui et ses enfants ont été pendus? Lui, ça fait 1 an, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien de lui. Je crois que Prem Kanievski a répondu qu'il y a eu un S et qu'il est resté intact. Donc effectivement, le 13 Adar, on l'a pendu lui et ses enfants. Mais il reste que la belle histoire que Aman, les choses se sont retournées contre lui le 13 Adar, non, elles ne se sont pas retournées contre lui, elles se sont retournées contre un mort. Donc peut-être on peut dire, et ensuite je réponds à votre question sur ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, et ensuite on peut dire que le fait qu'on ait pendu ses enfants le 13 Adar, c'est finalement, c'est lui et Aman. Ça veut dire, à partir du moment où tout ce qui aurait pu être sa suite a été tué ce jour-là, ouais. Alors vraiment, il voulait tuer les autres, et finalement, c'est lui qui est mort. C'est-à-dire que lui, tant qu'il a des enfants, n'est pas encore mort. À part ça, c'est une question très intéressante, savoir pourquoi Aman était... présente comme plutôt quelqu'un de vénal, intéressé, etc. Il était tellement fier d'avoir 10 enfants. Je ne sais pas si on a beaucoup de gens parmi nous qui sont tellement fiers d'avoir 10 enfants. Donc ça, c'est déjà un sujet. Maintenant, pour en revenir au procès de Nuremberg, effectivement, ils sont 10, sont morts, etc. Et on a vu un rapport avec Pourim. Et à part ça, il y a le code d'Esther. À tout le monde, voilà, on peut lire le livre. Je ne vais pas vous faire l'histoire du code d'Esther, qui est un sujet très intéressant. Mais disons l'histoire, le fait qu'ils soient, c'est comme si on disait à l'heure actuelle, pour dire voilà, c'est le Ramadan, et d'un autre côté c'est Pourim, donc qui va gagner? Est-ce que c'est le Ramadan qui va gagner ou est-ce que c'est Pourim qui va gagner? C'est-à-dire est-ce que la situation va se retourner en notre faveur tout à coup de manière totalement imprévue, ou au contraire c'est plutôt quelque chose qui prévoit notre destruction, qui va vaincre?
Alors, je le disais, on va pas passer l'histoire parce qu'il faut la lire, il faut en parler, etc. Par contre, j'ai une question sur les 4 mitzvahs qu'il y a à faire dans cette fête de Pourim. Il y a la lecture de la Megillah, Matanat Levionim, il y a le Machatzit HaShekel.
Pas le Machatzit HaShekel.
C'est avant. C'est
le Machatzit HaShekel, c'est avant.
Oui, mais ça rentre dans la politique. Il y a le Musté, il y a...
Et donner et envoyer à une personne de cadeaux.
De cadeaux. C'est quoi la symbolique? Je ne comprends pas.
Ben, elle est très dure à comprendre, en vérité. Ça a l'air tout simple, mais on comprend.
Parce que bon, faire des dons aux pauvres, on en fait régulièrement. Enfin, normalement, amener des cadeaux à des amis, on fait aussi ça régulièrement. C'est quoi la symbolique de ces 4 mitzvot?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mordechai et Esther, quand ils demandent aux Juifs de prolonger, de faire une fête, disons, à part le sujet de la Megillah, ils leur demandent, donc sur les 3 autres choses, comme vous voyez, le Mishté, donner aux pauvres et s'envoyer des... de haut, de la nourriture, ça dépend des avis. Ils ne leur demandent pas de faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait le 14 Adar. C'est-à-dire, comme c'est bien précisé dans la Megillah, ça veut dire, Mordechai leur dit, je vous demande de refaire tous les 14 Adar, ou 15, ce que vous avez fait le 14 Adar.
Donc le 14 Adar, tout le monde a fait un musté, tout le monde a donné au pot. Alors voilà,
apparemment, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand vous voulez faire plaisir, il y avait pas, vous n'alliez pas à la FNAC, vous n'alliez pas chez Boulanger, vous n'alliez pas aux Galeries Lafayette, etc. Quand vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un, quand vous voulez donner quelque chose, on n'allait pas, on ne pouvait pas aller chez Zara, ou chez Dior, ou chez Hermès, etc. On ne pouvait pas faire de cadeaux comme ça.
Il n'y a pas de cinéma non plus.
Voilà, il n'y a pas de cinoge, etc. Donc on est limité, on ne peut pas offrir des places de cinéma. On est limité dans ce qu'on peut offrir aux autres. Et donc, la chose la plus qui vient, la plus facile, qui vient comme ça, c'est d'offrir de ce qu'on a préparé à la maison.
Pourquoi ça peut durer? On aurait pu changer en disant, maintenant qu'on peut offrir autre chose, pourquoi obligatoirement des aliments? C'est par rapport à ce qui se passait avant?
Non, parce qu'il y a une marloquette dans les décisionnaires. Et le Mishnah Berurah, lui, dit, en conclusion, il dit que il faut offrir que des choses mangeables,
comestibles, parce
que c'est censé être pour accompagner la Seouda. Tout le monde était en train de manger à l'époque, et donc celle qui préparait les cigares, elle envoyait les cigares à sa copine, celle qui préparait les je sais pas quoi, elle envoyait je sais pas quoi, etc. Couscous, etc. Il envoyait et c'était comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre possèque, le Manot Lévi, qui dit que en réalité, on peut envoyer On n'est pas du tout obligé d'envoyer de la nourriture. L'important, c'est d'envoyer quelque chose qui fasse plaisir. Donc, on dit que les Talmid Chachamim sont envoyés des divrei Torah. On peut les livres, on peut envoyer des savons, on peut envoyer toutes sortes de choses, etc. Voilà, il n'y a pas besoin. Pourquoi est-ce que le Manot Lévi dit qu'on peut envoyer toutes sortes de choses? Et donc, l'halakha, on pourrait dire, si on devait fixer l'halakha, on pourrait dire que c'est bien de se rendre yotzé de ce qui est, d'après tous les poskim, ce qu'il faut faire, c'est de la nourriture. Mais une fois qu'on a fait son Mishloach Manot avec de la nourriture, ensuite, on peut envoyer absolument ce qu'on veut. Ce qu'on veut qui fait plaisir à l'autre. Et probablement, ce qui fait plaisir à l'autre, c'est bien évidemment autre chose que de la nourriture. Par exemple, je ne sais pas, vous allez... prenons le livre du grand Rabbin Gutman là, sur sa traduction de Emouna Ubitachon du Chazon Ish. Voilà, si on offre ça... Ce livre-là, comme Mishloach Manot, plus encore un petit quelque chose, puisqu'il faut les deux, plus, je ne sais pas, un stylo avec et des feuilles pour prendre des notes, etc. Voilà, c'est un magnifique, magnifique, pas besoin d'envoyer de la nourriture. Au bout d'un moment, c'est même plus sympa d'envoyer autre chose.
Alors, Pourim, c'est un événement important dans le calendrier juif. En général, c'est aussi le départ de la préparation pour Pessah. C'est à ce moment-là qu'on commence à penser à Pessah. J'aimerais avoir pour terminer votre conclusion. L'après Pourim, c'est quoi en général? Après cette histoire, après ce qu'on a vécu, après ce qu'on vit en ce moment, quelle conclusion on pourrait donner à cette histoire?
Ben, disons que l'après Pourim de cette année, pour reprendre des expressions très à la mode, après le 7 octobre, l'après Pourim de cette année, effectivement, il a une saveur particulière. Vous voyez, le problème, c'est que les gens ont tendance à oublier, nous, les Juifs, on a tendance à oublier qu'on est toujours en sursis. Donc on pense que parce que on est la génération start-up, nos moyens financiers ont augmenté, etc., on est absolument persuadé que tout va bien, Madame la Marquise, etc. Mais on ne comprend pas du tout que l'histoire juive, ce n'est pas ça. L'histoire juive, ce n'est pas d'être, c'est pas de produire des prix Nobel, et d'être avoir les meilleures start-up du monde. C'est aucun rapport, c'est tout simplement aucun rapport. Bien que ça y participe, mais ce n'est pas ça. Et donc, on vient nous rappeler, Aman a été le premier, on vient nous rappeler qu'en vérité, toute notre existence tient sur un fil. Et grâce à ces événements qui se passent, et grâce au fait que ça soit mondial, et que les Juifs reprennent conscience que leur vie ne tient qu'à un fil, alors... Ce Pourim, je pense qu'il est, on le comprend mieux. Sinon, on pense toujours que c'est une blague. Et quand les Juifs, disons, se replacent du point de vue d'Aman, ça veut dire point de vue d'Aman qui cette idée que finalement il y a une volonté d'une destruction totale des Juifs. Alors les Juifs sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils recomprennent mieux ce que c'est que leur histoire.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans une position, une mauvaise position pour savoir ou comprendre qu'on est juif.
Savoir comprendre ce que c'est qu'être juif.
Et c'est quoi être juif?
Ben, c'est pas avoir la meilleure start-up d'Europe.
D'accord. Monsieur le rabbin Eliashef, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions sur Pourim, sur la fête, le jeûne d'Esther. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bon courage jusqu'à ce soir. À bientôt.
Heint ist Purim, Brüder, lass mir singen Lied.